Donc du coup, je sais pas trop. Enfin voilà, je sais pas trop comment. J'avais pas compris le double dragon, ce que c'était. Maintenant, j'ai compris que c'était le lieu. Je pensais que c'était un combat.
Moi, je savais pas que c'était Coco qui passait après, donc je cherchais où t'étais.
Et du coup, j'ai voilà.
Trouvé le responsable.
Donc c'est parfait. Du coup, je sais pas trop comment je vais faire. L'idée qui a un peu émergé au début de. Bah, je vous ai montré, on vient juste de m'envoyer ces photos-là. C'est un peu le sujet en fait de la présentation. C'est, là, vous voyez, c'est dans un bouquin sur les makers. Et du coup, il y a des chercheurs en sociologie qui, en fait, qui analysent la liste de discussion d'un hackerspace français qui est Labo Média d'ailleurs.
C'est ce que j'allais dire, je reconnais le.
Voilà, et il y a une autre image où du coup c'est plutôt Ping. Je pourrais le montrer. Et le sujet, c'était de se dire, ben, c'est cool, on est dans la pratique depuis pas mal d'années, mais on est souvent observé par des chercheurs et on a tendance à critiquer les chercheurs qui analysent nos pratiques, mais pas se donner les moyens nous-mêmes de produire notre propre recherche. Un sujet qui est apparu sur la liste Hackerspace il n'y a pas longtemps à Paris, là, il y a plein de gens qui viennent regarder ce qui se passe, et au-delà du fait qu'ils reprennent les activités sur la question de l'innovation, ils reprennent aussi la question de la sociologie.
Je propose un truc, il faut qu'on crée un groupe pour aller analyser la pratique des chercheurs.
Ce serait une bonne idée. Donc, alors, j'ai créé un espace en ligne direct en envoyant un mail.
C'est une recherche récursive.
Voilà, première idée.
Croisé. C'est fini, ça y est.
Voilà, idée. Hop.
C'est une bonne idée.
Analyser.
Analyser
les chercheurs.
Ce groupe.
Donc ça, c'est la première idée.
Non.
Analyser les chercheurs qui nous analysent. Et bien sûr les nommer, hein, les citer.
Et enfin, hacker et détourner leur recherche.
Voilà, les hacker, etc.
Ça va de soi.
Bien sûr. Ça, c'est la première idée, pour pouvoir avoir peut-être un livre où nous aussi on dit, sur la liste de discussion des chercheurs, ils ont plutôt analysé la pratique d'Hackerspace de telle manière. Donc ça, c'est la première idée, c'est une bonne idée.
Ça va dans le sens de l'autonomie.
Voilà, la deuxième idée, c'était de produire nous-mêmes des articles. Donc je voulais présenter un article que j'ai plus ou moins réussi à écrire. J'ai jamais mis autant de mots bout à bout, autant de verbes depuis les rédactions de collège. Enfin, c'était toute une galère. Hein. Et du coup, pour ça, je me suis fait aider en thérapie individuelle et de groupe par un laboratoire d'innovation sociale par la recherche-action, qui s'appelle le LISRA, et qui est porté par un gars qui s'appelle Hugues Bazin, et qui a beaucoup bossé sur les mouvements hip-hop, et comment le hip-hop s'est fait institutionnaliser, pardon. À partir du moment où il y a eu des ateliers, comment faire du hip-hop, c'était un peu la fin du hip-hop. Quoi. Enfin, je Mais du coup, il travaille beaucoup sur le fait que des praticiens dans les activités socioculturelles produisent des articles sur une analyse de sa propre pratique plutôt que d'attendre qu'un chercheur vienne. Donc j'ai participé à plusieurs ateliers sur cette année. Il y avait 16 thématiques. Une des thématiques, c'était la question du numérique, mais les autres, c'était la question des vendeurs de rue Biffin au nord de Paris. Un lieu autogéré à Grenoble, enfin, plein de thématiques, 15 thématiques différentes, et puis ça produit des articles. Enfin. Donc, pour faire cet article, j'ai loupé en fait, j'avais dit qu'il fallait que je présente Ping d'abord. N'importe. Bon, Ping, on est une asso, loi 1901, qui existe depuis 2004, et on développe des lieux d'appropriation des technologies pour que les gens puissent pratiquer, mais en même temps porter un regard critique sur ces lieux-là. Nous, on a des adhérents, des lieux, mais on a aussi un réseau de lieux qui sont représentés ici, qui a un ensemble d'espaces numériques au sens très large. Et en fait, on a essayé de convaincre les gens qu'il fallait qu'ils sortent de leur silo, médiathèque, maison de quartier, hackerspace, peu importe le label, du moment qu'ils étaient en lien avec du grand public, ils avaient plutôt un intérêt à s'échanger, soit des savoirs, soit des retours d'expérience. Et du coup, ce réseau-là, c'est ça. Mais on a aussi, nous, deux lieux, un qui s'appelle plutôt Fab Lab, mais qui s'est appelé avant Media Lab et avant Hackerspace. Donc on change tactiquement de nom à chaque fois. Avec des adhérents, puisqu'il faut être tactique dans notre société. Donc voilà, on a cette pratique-là à Ping depuis quelques années. Donc du coup, voilà, je reviens sur cet article. Du coup, le gars, là, il m'a forcé à écrire un article. Ne sachant pas écrire, j'ai fait des interviews. J'ai pris un micro. Je ne sais plus où il est, je l'ai mis sur un site méchant. Et du coup, la question de départ, c'était de se dire... comment ?
Ça ?
Ouais, j'aime bien est-ce que finalement, en développant des lieux numériques, j'appelais numérique, c'était pour pas avoir à dire c'est un Hackerspace, un Media Lab, un Hack Lab ou un Art Lab, mais ce serait intéressant de se poser la question. Et du coup, plus on développe cette activité-là, plus on se rend compte qu'on est en lien avec des gens qui sont d'éducation populaire et qui nous parlent de pratiques, des technologies, de pratiques populaires. Et est-ce que par ces lieux-là, on développe une réelle autonomie des gens, ou est-ce qu'on est plutôt une caution et un pied en avant de Google et de Facebook? Est-ce qu'on ne crée pas l'inverse de ce qu'on essaie de créer? C'est ça le point de départ. Donc du coup, je suis allé voir des gens. Donc ça, c'est le lieu qu'on avait quand il était vide. Bon voilà, c'était un peu l'idée de départ. Plus on a de technologie, plus on a besoin de lieux. Est-ce suffisant? Donc j'ai interviewé du coup Labo Média. Donc j'ai interviewé plusieurs personnes. Benjamin Cadon de Labo Média, que vous connaissez, qui vient demain là. Jeff de Snalis. Snalis Alice 44, c'est un réseau de structures en Pays de la Loire qui s'occupe de recycler des ordinateurs sous Ubuntu. Et Jeff, il est voilà, 60 ans maintenant, il est un peu historique sur le mouvement de Linux en Pays de la Loire à Nantes. Il a créé plein de trucs. Hein. JB, il voulait pas que je le nomme, mais il s'appelle JB. Alain Giffard, c'est un monsieur qui est à la retraite, hein, qui a fait l'ENA, donc qui est plutôt en lien avec les politiques publiques, et c'est lui qui a inventé le mot fracture numérique dans les années 90. Mais du coup, qui porte un regard réflexif sur sa propre vie aussi, parce qu'il a aidé les politiques publiques liées à la réduction de la fracture numérique. Donc il a écrit un texte pour nous qui s'appelle « Culture numérique commune », qui est assez intéressant, et qui dit que si on veut vraiment développer les cultures technologiques, il faut développer une culture critique, au-delà d'une culture pratique. Et c'est du coup, j'ai interrogé. Xavier de Bureau d'études, qui vit en Sologne maintenant, qui bosse dans un lieu sur la question des communs, où s'écrit Cocopelli sur les réseaux des semences libres. Voilà. Mais bon, voilà, c'est le début de la discussion, et je m'étais dit que je viendrais présenter le début de texte, puisque ça rentre en connexion avec les discussions de la liste des hackerspace sur est-ce qu'il faut encore accepter que les chercheurs rentrent dans nos espaces. Alors, et du coup, à chaque fois qu'on s'est posé la question dans les discussions, en fait, on disait oui, il faut quand même continuer à avoir des lieux, il faut en développer le plus possible, puisque on essaie de nous faire croire que la technologie est volatile et transparente, de plus en plus, avec les téléphones portables, etc. Oui, mais quatre questions sont apparues, donc je vous liste les quatre questions. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. La première question, c'est pourquoi est-ce encore nécessaire de s'approprier les technologies? La troisième question, c'est à qui profitent les lieux de médiation? Comment et où produire des éléments de médiation vecteurs de transformation sociale? Donc je rappelle le thème du laboratoire, c'était en quoi est-ce que nos pratiques participe ou non à l'émancipation des gens, mais aussi à une transformation de la société. Et puis, je suis vraiment un peu rude avant l'apéro. Et comment objectiver vraiment nos limites, enfin voilà. Donc, sur la première question, après, je vais vous faire bosser. Première question. Voilà. Qu'est-ce que j'en avais dit là-dessus? Donc c'est toutes les discussions qu'il y a sur les listes en ce moment sur une culture très critique des technologies, du bluff technologie, et du coup dans quelle mesure, malgré le fait que nos mouvements soient plutôt portés par des gens, portés par la décroissance ou par des choses limitant en fait le développement et le progrès, comment finalement on participe ou non à ces questions-là? Bon, je fais assez rapide, hein. Je vous laisserai l'article, le lien après. Sur la deuxième question, c'était à qui profitent les lieux de médiation? Souvent les projets, notamment bah, ici par exemple le Tétala, mais aussi Labo Média et nous aussi, on est un peu porté par des pratiques artistiques qu'on appelle art numérique ou non, et qui font quand même la promotion d'une certaine technologie quand même, hein, mine de rien, et souvent on est là à critiquer justement le fait de se faire récupérer par des startups à la pointe de l'intégration capitaliste, donc on défriche et puis après eux récupèrent, donc c'est une problématique. Donc comment créer en fait des lieux où on aurait cette pratique un petit peu réflexive au bout de quand même pas mal d'années de hackerspace et de lieux de médiation numérique. Autant au démarrage, on pouvait peut-être le dire, on était un peu hippie ou happy. Autant maintenant, comment créer des conditions pour qu'il y ait vraiment une vraie prise de conscience de ça, et de pas être... Ouais, bon, bah, je passe. Et puis l'avant-dernier point, c'était aussi pas mal d'acteurs liés à ces lieux de hack, hein, sont aussi issus de politiques culturelles aussi, qui sont liées à la décentralisation de la culture, et là on a nommé les FRAC, les scènes nationales, etc., etc., qui sont quand même en général accessibles à un certain public déjà averti, entre guillemets, certains CSP, et comment les lieux de pratique numérique que l'on propose aussi sont aussi finalement dans cette même mouvance. Là on devrait faire des statistiques sur le public, mais nos activités c'est pareil, sur la moyenne d'âge, les CSP, le niveau d'études, et puis comment on a eu l'information. Donc, est-ce qu'on ne recrée pas aussi notamment cette problématique-là, et comment on ne devrait pas trouver d'autres modes d'intervention, peut-être justement dans l'espace public, plutôt que vouloir créer des lieux avec ces problématiques, qui gère le lieu, qui l'ouvre, est-ce qu'il faut être ERP ou pas, est-ce qu'il faut être financé par la ville, jusqu'à quel montant, etc. Enfin, je pense qu'ici vous êtes un peu dans la même problématique que nous. Du coup, on propose peut-être des interventions hors les murs. Bon, je passe là-dessus. Je voulais pas rentrer. C'est pas évident de présenter un article comme ça. Et après, du coup, on a fait un petit lexique parce qu'on s'est rendu compte que quand on parle en repas de famille, les gens ne savent pas ce que c'est un Fab Lab, un Curspace. Donc peut-être que c'est pas mal d'avoir un endroit où on détermine certains mots. Donc on est revenu sur culture numérique commune, culture. La culture, on sait que ça existe. Le numérique, on sait que ça n'existe pas, à part en France. Commun, on sait que ça existe. Culture numérique commune, c'est le texte d'Alain Giffard, justement, qui dit mais nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que la culture numérique ? Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des lieux où on apprenne à comprendre ce que c'est ces technologies numériques, à les anticiper, les détourner, les approprier. Et que c'est justement en partant de ce postulat-là qu'on crée une culture en mouvement, qui n'est pas une culture qui nécessite des compétences qu'on acquiert, parce que quelqu'un aurait créé un contenu, un savoir, on le sait, on le transmet. Mais c'est bien ça, justement, la culture numérique, si ça existe en tout cas. Et après, du coup, son texte se termine par une culture numérique critique, justement, sur la démocratisation, ce que je viens d'expliquer un petit peu. Voilà pour cette première partie. J'ai mis cette petite slide que j'adore. J'adore parce qu'en fait, c'est Christophe Bonneuil, qui est un historien des sciences et technologies, et du coup, qui fait une conférence, et il a mis ses slides sur YouTube, où il parle justement de l'idéologie industrialiste. Ce que j'adore, c'est que je l'ai regardé à 23h30, sur une vidéo sur YouTube, ça critique la société du capitalisme, mais en même temps c'est un nouveau capitalisme qui est face à moi, je suis moi-même en train de travailler bénévolement le soir. Enfin voilà, bon c'était dit. Bon, voilà, tout est dit. Mais cette phrase de Saint-Simon est pas mal. Après on est revenu sur l'algorithme aussi, c'était un moment d'échange sympathique. Là on fait un peu de pub sur un auteur de La Roche-sur-Yon, vendéen, qui a écrit Appétit des géants, pouvoir des algorithmes, ambition des plateformes, Olivier Hertzscheid. En fait, ce qui est intéressant dans son bouquin, c'est qu'il a décrit sa pratique de Facebook depuis le début, depuis qu'il est sur Facebook. Donc il y a tout un historique un peu rigolo. Où il dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette plateforme pourrie, toute bleue, c'est vraiment nul. » Puis la semaine après, « Bon, j'y suis retourné quand même, c'est quand même pas mal. » Bon, voilà. voilà. Après, il y avait toute une discussion dans les interviews qu'on a faites sur la question des technologies, du mot technologie, du mot de la technique, etc. etc. Bon, je ne rentre pas là dans les détails parce que c'est une mini présentation. Voilà. Fab Lab, forcément, c'est le mot à expliquer en pas de famille. Donc, du coup, moi j'explique souvent ça à ma grand-mère parce que, comme ma grand-mère, elle oublie, je lui expliquer souvent. Que dans les années 70, il y avait un magazine qui s'appelait SystemD et que je sais pas si vous savez, mais à l'époque, il y avait des clubs. SystemD dans chaque ville pour s'approprier et pour faire des ateliers liés au magazine SystemD, et on pouvait apprendre à faire son appareil à raclette soi-même avec des gouttières comme ça et en mettant des électrodes. Et en fait tous les t'avais une charte aussi qui est vachement intéressante, une charte où on ne devait pas parler de sexe, de politique et de religion, mais les trois en même temps on pouvait, par contre. Et du coup d'un mois sur l'autre, tu postais dans le magazine une question en disant « Oui, j'aimerais bien savoir comment on fait l'appareil à raclette parce que j'y arrive pas. » Et le mois d'après, il y avait ta réponse dedans. Donc Cédric est ici, il a tout scanné, je crois, tous les documents. Et moi, je m'étais dit, ce serait rigolo de retrouver les mecs parce qu'il y a carrément leur prénom et nom. C'était pas Theta Lab, c'était chez Jean-Pierre, machin, rue, machin. Ben voilà, du coup, j'explique ça à ma grand-mère que les Fab Lab, en fait, mais c'est moins branchouille, quand même. Bon, voilà, après, il y avait le mot souveraineté, du coup, je pense que Benjamin en parlera demain où il va présenter le guide qui vient de sortir sur Itimo, la souveraineté technologique. Émancipation, forcément, aussi. Il y a cet excellent article de ce chercheur. Tous les chercheurs ne sont pas mauvais. Et le jeune chercheur qui est décédé il y a un an et demi ou deux ans, je crois, et qui trace toute l'histoire des... Je ne sais pas si vous l'avez déjà parcouru. Toute l'histoire du mouvement Hackerspace aux États-Unis et en Allemagne, la différence entre les deux mouvements, notamment en Allemagne, le lien avec les médias activistes et puis le démarrage du groupe écolo allemand. Et du coup, comment c'est arrivé en France après, et son article est pour moi une révélation sur la voie, pourquoi c'est encore hyper important finalement d'avoir des lieux qui s'approprient le code, notamment les plateformes en ligne de Civic Tech, etc., qui sont peut-être des futurs enjeux. Enfin, voilà. Voilà, après, infrastructure, c'est un grand mot qui est revenu aussi dans nos échanges. Hein. Bon, et puis après, il y a des commentaires, etc. Du coup, c'était juste pour vous expliquer que l'article n'est pas fini et que ça a permis à des gens d'envoyer des mails en disant « moi, je ne suis pas d'accord avec ça », mais qu'au moins, ça, de notre point de vue, c'était pour dépasser, je remets ça parce que tu n'étais pas là, Alexandre, le fait que des chercheurs dans des livres comme ce livre « Makers » nous citent, ou citent Labomega, donc avant c'était le Summer Lab, là c'est Appel à Tarte. Et du coup, il y a eu une proposition tout à l'heure, je ne sais plus où il est le monsieur, qu'on fasse nous-mêmes une analyse des chercheurs, du coup sur une liste, voilà, inversée. Donc ça, voilà, ça c'est
un bon. C'est allemand.
Hein ?
C'est allemand.
Ouais.
Suite à une grosse
tout à fait.
Discussion
ah, non, non.
Sur la newsletter.
Tout à l'heure, un monsieur qui était là a dit, ouais, tiens, on devrait faire une liste qui liste les chercheurs, qui analyse les hackerspace et Fab Lab.
Oui.
Et qu'on analyse leurs livres aussi, et qu'on fasse exactement la même chose en disant...
Sur... Il va falloir des salaires.
Ouais, c'est
ça le problème.
Plus ou moins, c'est vrai. Mais on trouvera, ça c'est
salaires.
Mais avant, on a vu la question des communs, il y avait un atelier, donc c'est bon, c'est réglé.
Vous avez pas vu le truc sur la monnaie libre?
Et la monnaie libre, normalement, si on synchronise toutes les ressources...
Ouais, moi, je veux de la monnaie
voilà.
Court.
André Thomas.
Est-ce que tu peux redonner la référence de ton article?
Alors, pour faire simple, on a fait un pad qui s'appelle padlamine.org/hackerspace avec un S. Non, je sais pas.
L'article est sur Medium, c'est ça?
Ouais, mais je vais le mettre là, c'est plus simple. C'est pour. Je vais le mettre ici, ok?
T'as un truc devant le projet.
Ah ouais?
C'est la
ah ouais, c'est pas mal. Hein. Attends, je vais le mettre là, regarde.
Voilà, comme ça, c'est
parfait. Là, tu le vois là? Ou je vais même, rien, je vais même l'écrire dans. Là. Comme ça, ça va?
Ouais.
Ah oui. Putain, mais il y a vraiment, c'est vraiment. On peut pas faire croire qu'on donne des sources alors qu'en fait on les donne pas. C'est vraiment. Ouais. Hop. Voilà comme ça, c'est bon. Je vais les mettre ici. Et du coup. Du coup, il me reste plus qu'une, deux minutes, trois minutes. Donc, je savais pas trop comment ça allait se passer. J'avais prévu un petit atelier, mais qui peut durer peut-être tout le week-end. Ouais, ça peut.
Oui,
du coup, je prends
En fait, avec Ping, on est à fond des gens d'éducation populaire. Est-ce que vous connaissez l'éducation populaire?
Oui.
Et du coup, ils sont à fond, non, mais ce qu'on fait, c'est naze, l'éducation populaire. On a fait ça depuis des années, la propagation, tout ça. Et du coup, on a fait un petit atelier avec eux, je vous le propose, pour tout le week-end. Bonjour, Kaza. En fait, c'était de réagir sur trois mots. Moi, c'est un truc hyper connu qui s'appelle fait francophone.
Ouais.
En fait, c'était de réagir sur quatre mots et puis de citer des exemples qui vous paraissent importants dans votre histoire perso ou dans l'histoire de l'humanité. Ou les deux, on l'a fait. Et on l'a fait à. Vous démerdez, je m'embête, de toute façon. De toute façon, le tableau va être dépassé par l'intervenant d'après, donc c'est bien comme ça. J'ai amené des post-it aussi pour faire cool. Des post-it qui tombent,
c'est trop sympa.
Des post-it qui tombent. J'ai appris comment on mettait un post-it.
Comment on met un post-it? On dit post-it?
En fait, il ne faut pas. Je sais plus, il y a un truc. Il ne faut pas le mettre sur la colle. Ah, non plus. Le mettre que sur le post-it. Mais je mettrai sur le pad.
Comment on colle un post-it?
Il y a des formations ou
pas? Ah bah oui, nous c'est.
Par la non, il y a même.
Il
y a même le.
Et on peut rajouter des mots?
Le groupe de Scrum Toulouse.
Ah, ouais. Ah c'est vache. Ça. Ah bah ouais, mais moi si j'ai des mots à mettre que ça. Ah,
non, bah tu le mets là. Tu dis bah tiens, c'est toi, tu penses à un autre mot. Du coup, ici, vous mettez.
Direct.
C'est hyper. Carré quand même.
Bah c'était. Ouais, c'est le semi-open.
C'est les outils formels, si vous avez qu'à tout apprendre.
C'est des outils formels d'éducation.
Du coup, je vous laisse aller mettre des mots où vous y réfléchissez.
Ah oui,
donc,
j'ai une éducation populaire non formelle. Je connais rien à tout ce truc.
C'est pas un mot.
Et vous avez une minute pour y réfléchir. Et après, je vous donne les réponses.
Ah, il y a des mots.
L'opération, si vous avez d'autres mots.
Alors, c'est des mots,
c'est ça. Alors, je le donne par exemple, là, ça fait le premier modem. Mais vous avez vu qu'il y avait une frise là.
Il y a un cran que le page en dessous.
Ouais, on peut mettre.
Qui c'est qui rajoute?
Même en participation.
Alors c'est en quelle année ça du coup c'est...
Je sais pas, c'est non daté.
Non daté,
c'est avant, pendant et après.
Très bien, parfait. Parfait. Ça dépend. Je crois qu'il y a une idée. Et ça peut être par exemple l'arrivée
de...
On avait commencé en 1970, vous avez gueulé.
Parce
qu'il
n'y avait pas la commune aussi.
Hein, ouais, voilà. Il y en avait qui avaient gueulé. Il faut mettre les 1970.
Ouais,
vous avez remarqué, c'est anonymisé. Hein. On ne sait pas qui l'a mis. Ouais. Ça respecte une certaine.
Ouais, on se sent libre.
Bon, je vous donne la solution ou il y en a qui y écrivent. 184, c'est bon.
Tu vas rester sur le tableau, je peux pas dire que ça
va. Ah non, je mange juste après.
Ah ouais.
C'est presque comme des
citates. On l'a obligé quand même. Alors on va commencer.
On est pas mal là, ouais. D'autres personnes? Il y a le roi, toute la syntaxe, le ouais, tout le code est ouvert. Hein. Ah, c'est spoiler, Gnome.
Désolé. KDE, Gnome.
Environnement.
Ah, environnement. Ah, putain, ouais.
Ça va bien commencer les digitales.
Alors, du coup, je vous montre ce qu'on a fait avec l'atelier. C'est la meilleure.
Il y a un film après, ça dure une heure.
Du coup, on a fait comme vous, hein. On a fait un schéma directeur. Ah ouais, du coup... ah non, c'est pas celui-là que je voulais présenter. Ah, bon, c'est pas grave. Du coup, c'est des... avec des animateurs. On a fait trois ateliers, du coup certains étaient revenus sur la question de l'internet citoyen et de ce mouvement des années 90 ou 95, je crois, issu de Davos, il me semble, qui était porté par des institutions et qui disait que l'internet était un espace citoyen nouveau qui fallait réinventer la citoyenneté, avec une confrontation avec une image des mouvements plutôt plus récents. Puis il y a eu l'avènement... j'aime bien le flou en plus à côté. L'avènement des villes qui devaient être connectées. On était à la fois 3 étoiles fleuries, mais à la fois 5 étoiles ville internet.
Qui, ça se basait sur quel critère?
Qui se basait sur la connexion, connectivité, il me semble. Donc il fallait avoir un accès à au moins 5-6 modems par village. Après, en effet, on est passé du village à la citoyenneté du numérique. Donc là, ce qui a été pas mal souligné par les animateurs, c'était la question du numérique. C'est vrai que nous, on est vraiment dans l'ère passe-famille, la question du numérique revient souvent. Donc maintenant, c'est la République qui est carrément numérisée. Merci Alex d'avoir mis numérique. Ça, c'était un gars qui avait montré que des laboratoires de recherche, nos amis chercheurs, travaillent pas en fait avec leurs collègues, mais plutôt avec d'autres collègues. Bon, je passe. Voilà, donc je sais plus pourquoi on avait mis ça non plus. Voilà, ça c'est la question. Ouais, puis c'est grâce aux réseaux sociaux, je pense qu'ils arrivent à travailler hors des murs. Bon voilà, après, environnement, forcément, il y avait un des animateurs qui était plus âgé, et du coup, qui connaissait le manifeste de Tumblr, que les autres ne connaissaient pas, donc on l'a relu à voix haute, solennellement. Après, une remarque qui nous a été faite sur le mot environnement, qui voulait dire justement deux choses, le fait que non, les technologies ne sont pas volatiles et dans l'espace, et dans l'air et dans nos neurones, mais bien des câbles sous terre, et que quand on coupe un câble en Tunisie, ben, on est, il n'y a plus internet pendant un mois, je crois, ou deux mois. Après, on est parti sur des délires sur les smart cities, les occurrences, on a cherché comment la sémantique était arrivée de ville numérique, ville intelligente, smart city, aux villes machines, nanana. J'essaie de rattraper du temps, mais heureusement, la documentation nous permet de devenir enfin des vraies personnes, des vrais citoyens. Sur la première partie, c'est vrai qu'on est sur la question de l'éducation populaire. Si vous relisez la définition de ce que c'est l'éducation populaire, la charte qu'il y a dans les endroits de jeunesse et sport, en fait, c'est exactement la définition normalement d'un hackerspace, c'est donner les conditions à un citoyen de connaître son application sur une société, sur la partie technologique, de manière individuelle et collective. Donc, ils avaient cherché comment... Je ne sais plus pourquoi on a mis ça. Bon. Il fallait tout numériser. Donc là, on est sur la partie environnement. Hein. Donc je vous rappelle qu'on était parti sur ces questions-là. Là, c'était Benjamin Bratton là, sur sa magnifique slide. J'en passe. Après, forcément, on a cherché la quantité de données qu'on marchait, sans infrastructure. Bon. Non. Je passe aussi. Ça, vous connaissez. C'est un peu le thème du rencontre. Là, on arrivait à ce truc-là. On a pas mal parlé de ce film-là. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui est un film où c'est un peu la fusion de Facebook et de Google. Le film est vraiment pas terrible, hein, s'il a 5 ans. En fait, la fille accepte de porter, là, on voit sur elle, un espèce d'œil en permanence connecté, les gens peuvent voir ce qu'elle fait. Si le grand patron de Cycle soigne ses parents malades de maladies très complexes, hein. Et du coup, c'est un film de science-fiction, mais qui n'est même pas science-fiction. Les mecs ont loupé, ils n'ont même pas réussi à produire un imaginaire loin, et on dirait plutôt un documentaire. Bon, on a écouté religieusement des conférences de Yann LeCun sur les... Bon, voilà, je passe. Technologie. Du coup, en effet, il y avait à ce moment-là plusieurs générations d'animateurs. Ceux qui connaissaient le Minitel et ceux qui ne le connaissaient pas du tout. Et ceux qui le connaissaient hacké par... voilà. On a versé une petite larme sur toute l'historique des indie médias, la question des médias libres, via TV, mais ça revient un petit peu. Un gars nous a présenté ça, moi je ne connaissais pas, des jeunes qui utilisent l'espace des jeux vidéo pour créer des communautés et des ONG. Donc là, c'est les fans d'Harry Potter qui s'engagent sur des choses plutôt sociales. Donc c'était, voilà. Après, on a fait un peu de sémantique sur ce magnifique dessin. En effet, on dit numérique, mais on parle que de web, enfin, vous connaissez tout ça ici. Après, quelqu'un connaissait les low-tech, aussi, magazine, ce machin-là, qu'il faut tout réparer. Ah oui, je n'ai pas dit, c'est que dans l'atelier, on allait chercher des images correspondant aux mots qui avaient été mis. Pour ça, je reviens dessus. Moi, j'ai mis ce petit article de Philippe Fonseca, qui est un Brésilien, qui parle de Gambiara, qui est un mouvement au Brésil sur la manière de... aider son voisin à réparer ou à lui faire son électricité. Enfin, bon, voilà, je passe. Ça, c'est un site français que vous connaissez peut-être. C'est deux Parisiens ou deux Lyonnais, je ne sais plus, ou un Lyonnais, un Parisien, et qui sont partis à la recherche d'inventions abandonnées pour des questions générales économiques. Et ils sont partis même à la recherche des inventeurs et pour les relancer. C'est super intéressant. Bon, là, on a parlé des licences libres. Bon, c'était... histoire de faire un peu de propagande de doping. Et puis après, sur participation, donc c'était des grands débats. C'est moi qui ai mis cette image-là. C'est une maison de quartier à Fontenay-le-Comte, en Vendée, pas loin des Herbiers, qui était en finale de la Coupe de France. Et en fait, ils ont installé le Hackerspace Fab Lab espace numérique en plein milieu du centre social. Vous voyez, là, il y a mon collègue Thomas. Et là, c'est Géraldine, je crois, qui apporte un gâteau pour remercier les gens de lui avoir réparé son imprimante. Alors, ce qui est rigolo, c'est que comme ils avaient fait un atelier repair café la semaine d'avant, ils démontaient les ordinateurs, elle est arrivée, elle a complètement désossé son imprimante parce qu'elle a un problème de cartouche, il n'y avait plus de cartouche. Et du coup, ils sont morts de rire parce que l'imprimante est complètement désossée, il fallait juste changer la cartouche et puis elle apporte un gâteau. Voilà, donc c'est convivialité un petit peu. Voilà, on a parlé de ces choses-là. Alors ça, c'était... On a fait une étude vestimentaire quand même de Neil Gaiman, parce que on s'est rendu compte que, ouais, il avait quand même les mêmes habits depuis 23 ans. Donc soit quelqu'un ici dans la salle l'a vraiment déjà vu en vrai depuis peu, soit c'est un clone et on nous fait croire que c'est toujours un mouvement porté par un gars mais qui est un hologramme.
Ouais, je l'ai vu.
C'est vrai ? Il est habillé comme ça ?
Ah, je me souviens un peu de son avis.
Bon. Du coup, ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur System D. Ça, c'est ce que j'ai parlé, ce dont j'ai parlé sur les...
Comment ?
System D, j'ai vu
le
CDT,
le numéro 1 de System D, c'était en janvier 1924.
1924 ?
Ouais, c'est
énorme. Donc ça fait... on pourra faire les 100 ans de System D dans pas longtemps. On peut appeler ça le développement durable. Ça, je passe. Ça, c'était une discussion sur ce dont on parlait tout au début, là, avant que vous arriviez, sur est-ce que, justement, si tout le monde a un téléphone portable, il faudrait pas plutôt faire des interventions dans la rue plutôt que recréer des lieux. Donc, c'était sur cette statistique-là que des jeunes avaient discuté de ce truc-là. Ça, j'aimais bien cette image, pas pourquoi. Et elle marche pas
Alien.
Mal. Ouais, Alien in Apple. Faisons nos propres Google Cars, allons faire des Fab Labs qui vont dans la rue, faisons des Civic Tech, vive les sciences participatives. Donc ça, c'est une étude qui a été portée par le ministère de la Recherche sur comment utiliser soit les citoyens pour capter plus de données, soit carrément les inclure dans les sujets de recherche. Après, on a parlé des plateformes en ligne qui consomment plus que le sujet sur lequel ils sont censés soutenir... voilà. Autant cramer des data centers en sauvant l'Amazonie. Les monnaies libres ou les questions des biens communs avec la plateforme Gotéo, qui est revenue pas mal de fois. On a parlé de peut-être changer de démocratie ou de débat. Enfin voilà. Bon, je passe après parce qu'il y a plein d'autres trucs. Après, on a trouvé les solutions. Ça, c'est ça les solutions. Mais je vous les montre très rapidement. Comme ça, moi, vous. Ça, c'était la partie. Du coup, pour terminer, je vous invite à. Via le pad qui est ici, peut-être pendant les 3 jours, à abonder un peu plus que ce qu'on vient de faire là, parce que là c'était un condensé. Je vais essayer de mettre une petite thématique là, ou alors là sur le tableau, s'il y a des choses qui vous viennent en tête. L'idée c'était pas de cracher sur les chercheurs qui utilisent les rappels à tarte pour produire des livres qu'ils vendent, en disant que les makers c'est des gens cool, mais de se donner les moyens plutôt d'écrire des textes collectifs. Donc voilà. Voli, voli. Est-ce qu'il y a des remarques ou pas ? C'est bon ?